Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Eh bien le bonjour à tout le monde d'une nouvelle émission de Parle-vous de la lorgnette, votre émission littéraire. Qu'est-ce qu'il y a Valérie, qu'est-ce qui t'est arrivé, explique-moi.
Rien, j'ai été pressée de vous dire bonjour.
D'accord, ben c'est sympa, bonjour Valérie. Ça va Valérie? Ah ben tiens, tu pars.
Super.
Allez, elle a oublié ses notes encore une fois. Chaque émission, alors, salut Pauline.
Salut tout le monde.
Ramène du pâté Valérie.
Ouais, alors, t'as pas vu la dernière émission, t'as pas
entendu. Et non, j'ai eu en plus une coupure internet, donc j'ai même pas pu vous écouter après.
Eh ben Valérie avait oublié déjà ses notes dans sa voiture, ah. Là, elles sont un peu plus près, donc...
on s'en sort.
On s'en sort, salut Nico.
Et alors, c'était bien ton voyage, salut.
Ouais, c'était top, ouais c'était allez. Pas loin, les Beaux-de-Provence, la Camargue, tout ça,
ah ouais, c'est, beaux,
c'était
c'est magnifique. Super beau. Ouais.
Les moustiques.
Et même pas.
Et les jeunes
c'était
étaient sympas ou pas?
C'était la bonne période, les jeunes ont été super, ouais. Le petit sixième, ils sont curieux, ils aiment tout, donc c'est super de partir avec eux, ouais, on s'est éclaté.
Ouais. Les flamants roses.
Il n'y en avait pas non plus.
Il n'y en avait pas non plus.
J'y étais une semaine avant, il y en avait plein,
bon,
et les moustiques.
Il nous a manqué, on était un peu à la ramasse, surtout Ludo.
Parce que Ludo n'avait pas lu son livre.
Ah oui, si, la semaine dernière, oui, j'avais pas du tout lu le livre.
Il y a 15 jours.
Il y a 15 jours, pardon.
Bon, est-ce que vos lectures étaient bonnes?
On va le dire dans cette émission. Ouais, hein.
Je pense que Ludo avait prévu une intro.
Ah, ouais, non. Mais c'était pour lui casser un peu
alors,
son intro.
Absolument
mais c'est pour
pas.
Ça que je fais une intro.
Voilà. Et quel est le thème, Valérie?
Le thème, c'est la folie dans la littérature.
Exactement, la folie dans la littérature.
Ah, c'est pour ça.
On excuse Héloïse qui est...
se sentait trop concernée par ce thème.
Voilà.
Non, on ne l'excuse pas. C'est inadmissible qu'elle ne soit pas là avec nous.
C'est vrai. Mais bon, elle est internée en ce moment. Elle va revenir d'ici pas longtemps, on espère, pour le prochain thème qu'on ne connaît pas, hein, Valérie.
C'est ça, mais on pourrait l'inventer.
On pourrait l'inventer. Ouais, on va lancer un thème, comme ça elle va être obligée de nous trouver des livres en rapport. C'est bien ça.
Et si on demandait à nos auditeurs de nous choisir un thème pour... La prochaine fois.
Ouais, je te rappellerai que nos auditeurs n'ont même pas joué pour gagner ton fabuleux cadeau d'il y a 2 semaines.
C'est ça. Il y avait un cadeau.
Il y avait un cadeau à gagner. Ouais. Un merveilleux cadeau.
Ouais. Qui était, rappelle à Pauline, elle n'a pas entendu
l'émission. Qui était le magazine Préparer sa retraite.
Voilà. Dédicacé.
Dédicacé par l'ensemble
oui,
des
chroniques. Oui, mais c'était lié au thème de la dernière
c'était
fois.
C'était sur le thème.
Mais oui, il est vieux, ouais.
Voilà, c'est pour ça.
Et même, on avait imité ta signature pour faire croire que tu l'avais dédicacé.
Ah, c'est sympa.
Pour y donner un peu de valeur ajoutée, mais ça n'a pas suffi.
Ouais, il y a eu plein de clins d'œil. Donc, du coup, tu n'as pas écouté.
Eh ben
pas...
non, mais j'écouterai très vite. Hein, ça devrait.
Donc, voilà, on lance l'appel à nos auditeurs de nous proposer le prochain thème pour dans 15 jours.
C'est ça. En plus, ça serait une des dernières émissions. Hein. On arrive près de la fin. On finit fin juin. Avant la fête de la musique dans ces eaux-là, donc on arrive.
Et après, on aura la rentrée littéraire en septembre.
Et on aura la rentrée littéraire en septembre. Qui c'est qui parle en premier? Qui c'est qui a lu 2 livres? Qui a été un bon élève?
Je sais pas.
Allez, Pauline, à toi l'honneur.
Ouais, et puis je vais commencer, je vais garder le meilleur pour la fin parce que donc, dans mes 2 livres, il y en a un qui était pas génial. Pas génial, c'est Camisole de Salomon de Isara chez Rivage. Donc c'est Edgar Griffiths, il est comptable et en fait il se déplace dans un hôpital psychiatrique pour qui est complètement perdu dans les collines, dans le Vermont et son objectif c'est vérifier les comptes, tout simplement de l'hôpital, vérifier que tout va bien. Et là il arrive devant l'hôpital et premier choc, le bâtiment c'est un monstre, un bâtiment énorme, de dingue, hyper imposant, ça déchire complètement le paysage, il est énorme, briques rouges, enfin... Vraiment l'asile des films, de Shutter Island, de tout ce qu'on veut, qui met dans l'ambiance déjà, quoi. Il rentre dans l'hôpital, il est accueilli par Oswald Barker, le directeur du centre, qui lui fait, pour le mettre dans l'ambiance, traverser un couloir avec toutes les salles, avec les plus fous de l'asile. Donc déjà, premier moment de panique, à peine rentré, il se retrouve dans ce couloir terrible. Et pour lui dire, on va boire un whisky dans mon bureau, mais voilà. C'est le passage obligé pour aller boire un whisky dans mon bureau. Bon, ça commence bien. Et puis bon, ce Barker, là, il est un peu bizarre. On sent qu'il y a quelque chose qui est louche. Il doit avoir un secret, quoi. Il y a un truc pas net.
Je ne sais pas. Ça fait très cliché. Ça commence comme tous les feuilletons américains où c'est que ça va être lui le patient.
Les mauvais films d'horreur.
C'est ça. Ils auront séquestré le vrai directeur et en fait c'est un patient qui s'est mis à la place.
Mais c'est peut-être pas si nul que ça alors.
Ouais, mais ça fait très cliché.
Plein de surprises finalement.
Ça fait très cliché.
Ça fait film américain.
Ouais, voilà. Après, bon, l'ambiance, elle est là. C'est ça, c'est calé. Donc voilà.
Mais ça fait flipper.
Eh ben, je pense que l'objectif, oui, c'est ça. Mais bah, franchement, moi qui flippe pour un rien, là, rien quoi. Rien du tout. Il se retrouve, donc il descend dans les archives pour regarder un peu les comptes. Mmh. Dans les comptes, il y a déjà des choses bizarres. Il n'y a rien. Le mobilier ne coûte rien. $1 pour les chaises. Enfin, c'est vraiment louche déjà les comptes. Et puis là, l'orage, le fameux, la tempête arrive. Bien sûr.
Qui l'empêche de repartir.
Voilà. Début du cauchemar.
Où il aperçoit la femme avec Je me suis dit, ça va être ça.
Et puis, finalement, non. Voilà. L'électricité se coupe. Toutes les sécurités sont désactivées. Oui. Les fous s'enfuient. Mmh. Ils errent complètement en liberté, voilà, dans l'hôpital. Et ils décident de se rebeller. Donc là, Edgar sent un peu le truc. En plus, il entend des voix bizarres dans le sous-sol, là. Et au détour, il essaye de sortir. Et puis là, il passe dans une première pièce. Et là, l'horreur, tout est saccagé. Il y a des cadavres partout. C'est hyper violent.
Et là, t'as flippé. Même pas.
Toujours pas. Toujours pas. Il y a vraiment des descriptions glauques, assez violentes. Mais on comprend pas tout ce qui se passe. Et puis, on commence à entendre parler de Monsieur Rire. Ce Monsieur Rire qui a décidé de poursuivre Griffith, le héros, là. Et donc, Monsieur Rire, c'est cette chose. Alors là, je cite le livre, ce simulacre d'humanité à la fureur incroyablement hypnotique qui avoisinait les 2 mètres de haut et était maigre à faire peur. Ses bras ballants pendaient long de son torse nu, d'où les côtes saillaient au rythme de son souffle caverneux. Et il traînait une hache de bûcheron, démesurément grosse, sans la moindre difficulté.
C'est un peu cliché.
Voilà.
C'est Shining.
On l'imagine avant d'avoir lu la description.
Tu vois, mais sans le nez rouge.
Non, Shining, ça fait flipper. Hein.
Oui, Shining fait flipper. It, ça fait flipper. Mais là, il a l'impression qu'il prend un peu, tu vois, la taille du mec de la ligne rouge. It, c'est ça.
Ah, ça. Je croyais que tu parlais d'E.T.
Non, non. It, ça fait flipper. Non, tu vois, la taille, ça te fait penser, c'est la ligne verte. Non.
Mais la ligne verte,
mais la taille qu'il a, non, mais la taille du gars, tu vois, qui est interné, la taille qu'il a, le fait qu'il ait son, enfin, je veux dire, il est en asile, il peut pas trouver une hache, ou, enfin, je sais pas ce que tu dis là, c'est.
Eh ben oui, mais voilà.
C'est l'hache d'Avengers. Enfin,
ce Monsieur Rire, on comprend petit à petit que c'est un peu une incarnation de l'hôpital, qui est en fait vivant.
D'accord.
Et voilà, cette incarnation, c'est l'incarnation de vraiment toutes les peurs. Et une fois qu'on a pénétré dans l'hôpital, Monsieur Rire nous choisit. Et c'est impossible de faire marche arrière. Tout ce qui lui reste à faire à Edgar Griffith, c'est de monter dans les étages et de vivre toutes les grandes étapes de ses pires cauchemars. Mmh. Voilà. Donc, je pense que quand même, il y a peut-être un public pour ces bouquins. Voilà, les amateurs qui aiment ces univers un peu très malveillants, très morbides. Voilà, les adjectifs, il manque pas. Hein, macabre, glauque. Voilà, tout ce qu'il y a dans cette vie d'Edgar. Et puis, voilà, qui se retrouve face à des horreurs, à des moments, voilà, il se retrouve face à des souvenirs horribles de son enfance. Et finalement, on se rend compte que ces souvenirs horribles de son enfance, ça fait tout ce qu'il est. Mmh. Il se retrouve face à ça, dans cet hôpital. Donc, en résumé, derrière, il nous annonce une référence à Lovecraft. Donc, on se dit, ça va envoyer.
C'est quoi Lovecraft ?
Elle en avait parlé.
Un auteur fantastique, le maître du genre, quoi. Okay. Ouais. Et puis bon, finalement,
bof.
On n'y est pas. Voilà.
Alors, il faut dire aussi que l'écrivain Salomon Deizara est guitariste dans un groupe de black metal symphonique.
Oui, voilà, il a son univers déjà.
Et qui a été remarqué pour
c'est
un
son
livre,
premier bouquin, ça ?
Son deuxième, je crois.
Son deuxième.
Il a été remarqué pour Nous sommes tous morts. Joli titre qui est paru en 2014, toujours chez Rivage.
Ouais, il a écrit une thèse sur l'enfermement, tout ça, donc il a un profil quand même.
C'est très court, hein.
Ouais, c'est un tout petit bouquin, ça se lit très vite. Mais voilà, le thème, il n'est pas hyper original, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est que là-dessus, ça fonctionne à peu près. Mais voilà, il choisit pas un univers. Il pioche dans trop d'univers. Du coup, c'est pas cohérent. On est paumé. On sait pas où on va.
Et l'écriture.
Ça manque un peu d'originalité, d'un ton choisi. Ouais. Ça va un peu dans tous les sens. Il fait jamais de choix. Et ça jusqu'au bout. Et du coup, c'est un peu regrettable.
T'arrives pas à rentrer vraiment dans
Non, j'ai pas ressenti de peur. J'ai pas ressenti de tension. Ça n'a pas marché sur moi. Vraiment pas.
Ok, ça arrive.
Mais ouais. Dommage.
Salamandre et Isara Camisole, mais ça peut peut-être marcher chez d'autres lecteurs. Donc,
moi, je pense que c'est le genre de truc qui m'aurait plu en étant ado, tu vois, sur un grand peut-être, ado. Je pense que ça aurait pu m'éveiller des choses.
C'est peut-être pour les ados. Oui,
peut-être. Ouais, en plus, c'est court, ça se lit facilement. Donc, c'est vrai que.
Ça aurait pu m'éveiller des choses. Explique-nous. Vas-y, Valérie.
Non, mais voilà, ça aurait pu me faire la peur que Pauline n'a pas eue, parce qu'un adulte, je pense que tu raisonnes par rapport justement à l'enfermement de tout ça, qu'à grand ado, il y a l'inconnu du monde de l'asile, il y a tout ça qui reste mystérieux. Le gars, il est comptable, la figure du comptable, il n'y a pas plus protocolaire que de choisir un comptable. Tu imagines le mec bien propre sur lui, qui arrive avec sa petite valisette marron, que le vent se lève pile quand il monte les marches du perron de l'établissement. Je pense que ça peut, sur un jeune public qui n'a pas encore trop d'ouverture d'esprit sur les maladies mentales ou autres, ça peut fonctionner.
Et qui n'a pas déjà lu, vu des tas de choses, ce livre déjà mille fois. Oui.
Ouais, parce que là, ça fait très, très téléfilm, en fait, pas forcément mauvais, mais déjà vu.
Ok, Valérie, tu nous présentes quoi ? Tu as deux livres ?
Non, je crois que Nico veut prendre la parole.
Nico va prendre la parole. Je vais peut-être envoyer une petite chanson alors.
Il était même pas prêt.
Voilà, je voulais vous parler de ce premier ouvrage d'Olivier Bourdeau. Olivier Bourdeau est un auteur qui est né en France, au bord de l'océan Atlantique en 1980. Et l'éducation nationale a refusé en fait de comprendre. Ce qu'il voulait apprendre. Donc il a été un petit peu en marge. Il ne s'est pas du tout retrouvé à l'école. Voilà. Aujourd'hui, il a voulu écrire en attendant Beaujangle. Et en fait, c'est sa première œuvre. Et c'est vraiment une belle œuvre. Alors, je vais vous dire pourquoi. Bon, il a reçu quand même le prix du roman des étudiants de France Culture. Il a reçu le prix donc France Culture Télama, le grand prix RTL Lire. Et puis le prix de France Télévisions en 2016. Donc c'est un nouvel auteur. C'est un roman qu'il a écrit. Donc c'est pas une biographie du tout. Hein, c'est pas du tout son histoire. Et dans cette histoire, en fait, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, un petit garçon raconte que ses parents excentriques, follement amoureux l'un de l'autre, dansant sur la chanson de Mr. Beaujangle, celle que vous écoutez,
Nina Simone.
Une folie donc partout présente dans son quotidien, un quotidien guidé par le seul plaisir, la fête et la joie de vivre. Si bien que cet enfant, il dit, mais comment font les autres enfants pour vivre sans mes parents ? Voilà. Donc un enfant plus spectateur qu'acteur, qui dans ce livre, on le retrouve en train de raconter l'histoire. Donc elle est racontée par deux personnages principaux, qui est le père et l'enfant, avec une complicité quand même entre les deux. Donc il est observateur attentif et amusé d'un tourbillon de fantaisie dans lequel il se laisse emporter, avec une espèce de fantasmagorie autour de tout ça, c'est-à-dire on ne sait pas si vraiment il vit la réalité. Il lui semble que tout est complètement disproportionné, mais c'est follement amusant. Donc il se retrouve là. Donc il rencontre différents personnages, dont un. Dantin, en fait.
Tu lèches la trompe de Nico, s'il te plaît, Valérie.
Qu'il est couillon. Voilà. Mais quand la folie maternelle donc prend des chemins un peu trop excentriques et conduit sa maman donc à l'hôpital psychiatrique, père et fils vont en fait tout faire pour la garder auprès d'eux, coûte que coûte.
Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle avait comme symptômes qui a fait que...
Alors les symptômes, durant tout le début du bouquin, en fait...
Elle est complètement folle, elle va faire des stages on de se dit qu'ils sont... à l'île d'Oléron.
Ça,
tu vois.
Ça va, ça.
En fait, au début du bouquin, on se dit, mais ils sont complètement allumés, complètement barrés, les parents. Et tu te dis, mais c'est anti-péda, c'est... Comment ils peuvent élever un gamin ? Presque, tu t'offusques que ces gens, ils aient eu le droit de faire un gamin, quoi. Parce que c'est franchement... tu te dis, mais dans quel univers ils font grandir leur gamin ? Et en fait, c'est vraiment un texte qui est vivifiant et qui est formidable, à la fois par la légèreté du ton qui est porté, c'est-à-dire la façon dont c'est écrit, mais aussi la façon dont il traite la folie. C'est-à-dire que la folie, elle est effectivement chez la mère. Il raconte même l'histoire de la rencontre entre son père et sa mère, dans quelle façon ça s'est fait, etc. Et puis comment le père participe à tout ça au quotidien, à travers des mensonges, à travers des choses qui sont tellement folles que même l'enfant le croit. Et quand on lui dit « Mais que fait ton père ?», il se met à raconter la folie de son père. Enfin, tout ce que son père lui a raconté. Et tout le monde se moque de lui. Mais lui, il croit vraiment. Et en fait, ce qui est très beau dans ce livre, c'est à la fois le fait de montrer que la folie, en fait, c'est aussi une façon de s'échapper de la réalité et de profiter des plaisirs de la vie. Et franchement, quand vous lisez ce bouquin-là, vous avez envie d'être fou, quoi. Enfin, envie d'avoir cette partie de folie qui vous amène à considérer le quotidien comme quelque chose de subalterne qu'il faut gérer pour gérer, mais qu'il ne faut pas vivre, quoi. Et pas du tout s'enfermer dans nos petites préoccupations légères. Là, il y a énormément de légèreté, de fantaisie. Donc, par exemple, le père et la mère, tous les jours, ils dansent. Elle danse tout le temps. Et elle danse systématiquement sur cette musique que vous entendez, qui est Mr. Bojangles. Voilà.
Parce que c'est le titre du livre aussi.
Parce que c'est aussi le titre du livre qui s'appelle En attendant.
Bojangles.
Voilà. En attendant justement que la mère passe cette musique et qu'elle danse dessus. Et donc ils deviennent des professionnels de la danse quelque part parce qu'ils dansent tout le temps, quoi. Voilà. Pour un rien, ils se mettent à danser, à rire, à chanter. Même quand l'inspecteur des impôts vient les voir en disant, vous savez, ça fait des décennies que vous ne payez pas d'impôts sur vos revenus faramineux. Parce que le père, en fait, il a monté une société de nettoyage en collaboration avec un sénateur qui l'a aidé, en fait, à faire voter une loi qui lui permet de faire des contrôles techniques sur les bagnoles. Du coup, il monte des stations de contrôle partout en France et donc il se fait une fortune, quoi.
Et le père est fou aussi ?
Le père est pas fou, mais il joue à la folie.
D'accord.
Et c'est ça qui est... À la fois, on ressent dans ce bouquin que le père, il est dans cette tendance de l'émerveillement de son fils, de cette folie passagère, de ce mensonge calculé et tendre, tu vois. Et donc, il y a cette espèce de complicité, voilà, et de finesse dans le propos, parce que ce sont des gens qui sont érudits quand même, hein, donc... tout est très très bien choisi, quoi.
Ça a l'air extrêmement poétique.
Oui, oui.
Alors, c'est frais, mais pas que. La seconde partie, parce que le bouquin est en deux parties, laisse en bouche un arrière-goût, voilà, mais assez doux et amer. C'est-à-dire, on sent que derrière, ça va se compliquer, qu'il va y avoir une histoire terrible. Mais qu'en même temps, tout ça, ça se fait dans la beauté.
C'est ce que j'allais te dire. On a l'impression que ça va finir en drame, cette histoire.
C'est un drame, tout à fait.
C'est un drame, ouais.
Mais c'est... Alors, c'est un drame et c'est une comédie dramatique parce que le ton, c'est de la comédie. Ouais. C'est surtout une histoire d'amour magnifique entre deux êtres, entre ce père et cette femme, quoi, qui est vraiment... qui semble magnifique. Il n'y a pas de description d'elle, mais dans sa façon d'être, dans sa façon de danser, dans le regard de l'enfant sur sa mère, dans cette relation, voilà. C'est extrêmement beau, quoi. C'est beau, c'est triste, un peu comme la vie. Il y a à la fois là-dedans, on retrouve, pour ceux qui ont lu Boris Vian, Georges Brassens dans un de ses bouquins qui est assez barré, voilà, que j'ai conseillé
il y a deux semaines.
Voilà. Et en même temps, il y a une espèce de mélancolie poétique. Le texte, en fait, l'écriture, c'est une prose poétique narrative donc, qui raconte et en même temps, elle est extrêmement naïve. Est vue par les deux protagonistes de l'histoire, qui sont le père et le fils. La mère parle par petites brides, simplement pour répondre à son père, mais je vais vous lire quelques extraits après, et vous comprendrez. Et donc, pour moi, c'est un ovni littéraire. C'est où la folie des personnages et leur tendresse nous plongent vraiment dans une mélancolie, mais très jouissive. Donc moi, j'ai fini le bouquin en me mettant cette musique et en me mettant du jazz derrière. Et j'ai lu d'un seul trait ce bouquin.
Et vous avez dansé?
Et après, j'ai dansé avec ma femme.
Pourquoi vous? Ah, avec sa femme.
Parce qu'ils dansent pas tous.
Je pensais que tu pensais qu'ils étaient seuls, qu'ils étaient deux dans
oui,
dans
avec sa tête. Avec, vous avez des amis dans sa tête aussi.
Avec les, oui, après, tu peux aussi.
Avec voilà. Des amis imaginaires.
Donc, c'est un premier roman audacieux, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place dans l'éducation nationale, comme quoi ça mène à tout. Mm-hmm. Loin des modes, qui ne donne pas dans l'autofiction ou la biographie romancée, pas du tout, mais c'est un vrai plaisir. Il s'en dégage un charme désuet, un petit rien de suranné qui vous enveloppe dès les premières pages. Donc vraiment à lire absolument, c'est vraiment magnifique. Voilà.
Tu nous as pas donné la maison d'édition, Nico? C'est chez qui?
Alors la maison d'édition, c'est Édition Finitude.
Ah, première fois que j'entends.
Mmh. Voilà, donc ah ouais. Ça a reçu en fait 3 prix déjà, hein, j'ai dit, prix oui. RTL. Prix France Culture Télérama et prix France Télévisions en 2016. Un petit extrait quand même.
On pourrait faire des prix de par le bout de la lorgnette. Hein.
Oui.
Ouais. C'est une bonne idée.
Une bonne idée.
Alors c'est le père et la mère qui parlent. L'avantage avec ma retraite anticipée, donc celle du père, c'est qu'on pouvait partir en Espagne sans attendre tout le monde. Et parfois, ça nous prenait comme une envie de faire pipi, quand même un peu plus long à préparer. Le matin, papa disait « Henriette, faisons les valises. Ce soir, je veux prendre l'apéritif au bord du lac. » Puisqu'ils ont acheté un château en Espagne. Mmh. Voilà. Alors, on jetait des milliards de choses dans les valises. Ça volait dans tous les sens. Papa hurlait « Pauline, où sont mes espadrilles ?» Ce qu'il faut vous dire...
Il y a souvent des Paulines dans les histoires de fous.
Alors,
je sais pas pourquoi.
Dans leur histoire, en fait, tous les matins au réveil, sa femme lui demande comment aujourd'hui il va l'appeler. Donc, tous les jours, il change de prénom de sa femme. Mmh. Voilà, donc c'est assez joli, quoi. Et donc, Pauline, où sont mes espadrilles? Et maman répondait, à la poubelle, Georges, c'est encore là qu'elles vous vont le mieux. Et maman lui lançait, Georges, n'oubliez pas votre bêtise, on en a toujours besoin. Et mon père répondait, ne vous en faites pas, Hortense, j'ai toujours un double sur moi. On oubliait toujours des trucs, mais on était souvent pliés en quatre pour faire nos bagages en 2 temps et 3 mouvements. Le problème, c'est qu'elle perdait... Alors, voilà, ça c'est un extrait. Un très court extrait. Le problème, c'est qu'elle perdait complètement la tête. Donc, il parle de sa maman. Bien sûr, la partie visible restait sur ses épaules, mais le reste, on ne savait pas où il était. J'allais pouvoir répondre à une question que je me posais tout le temps. Comment font les autres enfants pour vivre sans mes parents? Maman était installée au 2e étage de la clinique, donc ça c'est quand elle est hospitalisée, celui des déménagés du Ciboulot. Pour la plupart, le déménagement était en cours, c'est-à-dire dans leur tête. Leur esprit partait petit à petit, alors ils attendaient calmement la fin du nettoyage en mangeant des médicaments. C'est très très bien écrit. Oui. Dedans, on retrouve vraiment cette prose poétique avec parfois des rimes qui se font dans le texte, mais c'est pas écrit comme sous la forme de rimes. Du coup, on est bercé par ce langage et on s'y retrouve vraiment beaucoup, quoi. Donc franchement, un super bon bouquin.
Est-ce qu'on sait pourquoi il a voulu traiter ce thème, Olivier Bourdeau, ou pas du tout?
Alors, en fait, il a fait toute une vidéo où il parle de son bouquin. Non, il avait envie de traiter de la folie. Et donc, il est parti, il a construit des personnages, différents types de personnages, qu'il a fait vivre, qu'il a inventé, qu'il a fait se rencontrer. Et progressivement, il a écrit ce bouquin.
C'est une très bonne idée, en tout cas. Le scénario de base,
c'est très intelligent. Ouais, on est déjà touchés, là. Déjà
et la fin du bouquin est magnifique. La fin du bouquin est vraiment très, très belle.
Nico, on ne dit pas.
Moi, déjà, j'ai ouvert
d'ailleurs, ça peut être un scénario
mon passage de,
film,
de catastrophe. Je n'ai pas fait exprès, j'ai ouvert, j'ai lu une phrase et je sais ce qui s'est passé, le drame.
Tu ne dis rien. Valérie.
Non, je dis rien, mais c'est terrible.
Non, je le conseille. Franchement, ouais, moi, c'est un vrai coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce bouquin-là. Je l'ai lu d'une traite, voilà.
Ouais, ça a l'air vraiment bien. Tu me l'as bien. Un peu mieux que Camisole.
Il faut vous passer la musique de Mr. Bojangle.
En même temps. Ouais. Ouais, mais il faut l'écouter en boucle, quand même. Ça fait quoi, 5 minutes hein?
C'est ça, 5 minutes.
Mmh. Ah, Nina Simone. Tu passes Nina Simone pendant 2 heures, quoi.
C'est un. Petit roman un peu plus gros que Camisole, c'est quoi? C'est 158 pages. Hein, au format. Nico, quel format ça? C'est semi A4?
A5.
La couverture est super par contre, tu peux en parler.
Très pop.
Ah, façon très, ouais,
très pop, donc c'est, très deux, Warhol, c'est deux danseurs avec donc un homme et une femme dans les années 50. Donc on ne sait pas trop la période. Hein.
Et le lieu par contre, si tu dis vont en Espagne, donc on pourrait presque supposer que ça se passe en France.
Ils habitent en France et vont en Espagne.
D'accord. Ouais.
Allez, merci Nico. Avant la pause musicale, je vais présenter mon livre qui n'a absolument aucun rapport avec le tien, mais qui est excellent. Oui, Nico ? Ça y est, il est fou. Il a pété un boulard.
Tu veux danser ? Bon, ben, allez, vite fait, tu nous mets une petite musique, on va danser.
Allez, Nico s'absente et tu reviens après. J'adore quand on s'absente, quand c'est à moi de présenter mes livres.
Genre, ça montre tout l'intérêt.
Aucun intérêt, ouais. C'est ça. Mais je m'en
rappellerai. Non, c'est pour garder la surprise, en fait, parce que t'en dis tellement sur les livres.
Ouais, c'est ça, peut-être.
Voilà.
Allez, en tout cas, un excellent livre, ma chère Pauline, Le Retour de Russie, d'Yegor Grand. Alors, Yegor Grand est le fils de l'écrivain dissident soviétique très connu, que vous connaissez tous, qui s'appelle Andrei Sinyavsky. Non, que je ne connaissais pas, mais bon, voilà, c'est son fils, qui est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Il y a grandi, il a fait des études d'ingénieur à l'École centrale de Paris. En parallèle de son travail d'ingénieur, il entame une carrière d'écrivain et choisit comme pseudonyme le nom de famille de sa femme. Il est auteur de plusieurs livres, dont le livre en 2003 qui a obtenu le prix de l'humour noir pour ONG. Alors, c'est un livre très drôle, celui-là aussi. ONG, c'est le récit d'une guerre entre deux ONG, l'une s'occupant d'enfants malades, l'autre d'environnement, et qui siègent dans le même immeuble. Donc, vous imaginez, ça, voilà, deux ONG, ça fait des étincelles, c'est apparemment très drôle. Depuis 2011, il travaille chez Charlie Hebdo. Donc, je ne sais pas s'il y a encore, mais c'est pour un peu que vous visionnez le type de personnage. Alors, Le Retour de Russie, ce livre, en fait, aurait pu entrer dans cette émission par diverses catégories. Dans la catégorie science-fiction, dans la catégorie roman d'aventure ou dans la catégorie folie. Donc on y est. Donc on a pu le rentrer dedans. L'auteur a expliqué en fait dans des interviews son goût pour les romans d'aventure, parce que c'est vraiment ce qui ressort en premier de ce livre, au-delà de la folie. C'est le roman d'aventure. Donc cet auteur a expliqué qu'il était complètement fan d'Alexandre Dumas, de Robert Louis Stevenson. En fait, de styles de romans qui sont quand même décriés. Maintenant, les romans d'aventure, ça a très mauvaise presse. Oui, les romans d'aventure ont mauvaise presse. On préfère les romans dramatiques, les fictions, les autobiographies. Mmh. Romans d'aventure, c'est un peu des romans de seconde zone, d'après les critiques littéraires, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, voilà, je suis quelqu'un de populaire.
Oui, puis nous, on est tous ouverts, à part le bout de la lorgnette, donc on lit un peu de tout.
C'est ça. Alors, c'est pas du tout un roman réaliste, mais alors pas du tout. Il a expliqué, cet auteur, s'être intéressé depuis toujours au retour de Napoléon de Russie avec ses milliers de morts, ça l'a toujours marqué. Et il est parti du postulat pour écrire ce livre. Comment on pourrait revivre l'aventure de ce retour aujourd'hui, dans les temps actuels contemporains ? Deuxième postulat, le 19e siècle était obsédé par Napoléon. On a vu une épidémie de fous qui se prenaient pour Napoléon à l'époque. Et il s'est demandé, y a-t-il encore des fous qui se prennent pour Napoléon aujourd'hui ? Donc, partie de ces deux postulats, en fait, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de deux personnages au sein d'un asile qui est quand même un asile plutôt sympathique, donc rien à voir avec Camisole. Deux personnages. Le premier personnage, c'est le docteur Archibald Day, qui est assez innovant dans sa manière de soigner les fous, car pour les soigner, il se rend dans des lieux historiques des personnages auxquels les fous se prennent pour leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas qui ils croient. Donc, par exemple, il a un Attila qu'il amène en Hongrie pour lui prouver qu'en fait, c'est pas Attila. Et la personne se rend compte que, ben non, en fait, c'est pas Attila, c'est un psychiatre comportementaliste qui fait donc des voyages initiatiques. Et alors, c'est assez drôle parce que ce psychiatre est très, très mauvais en histoire. Alors, pour lui, finalement, c'est un moyen de pas sombrer dans la folie parce que tous les jours, il côtoie Napoléon, De Gaulle, Christophe Colomb, Attila. Donc, il est très, très mauvais en histoire. Et arrive Pauline B., car on sait que la majorité des Paulines sont un peu atteintes. Pauline B., qui se prend pour Napoléon.
C'est vraiment Pauline B.
C'est vraiment Pauline B., elle s'appelle. On ne connaît pas son nom de famille, c'est Pauline B.
C'est alors, génial.
Alors, l'auteur fait aussi un clin d'œil parce que c'est très très rare dans les annales de la psychiatrie qu'on change de sexe, qu'on se prend pour un personnage historique. Donc lui, il trouve une femme qui se prend pour Napoléon. Donc arrive cette Pauline B au sein de cet asile de fous. Et pour la soigner, il décide...
Pauline Bonaparte.
Voilà, exactement. Pour la soigner, il décide de l'amener en Russie. Mais c'est elle qui lui demande de l'amener en Russie. car au retour de son périple russe à l'époque, Napoléon avait disséminé des trésors de pillage un peu partout. Et elle, elle lui dit que s'il veut, vu la situation financière de l'hôpital, elle, elle se rappelle où sont ses trésors, et que cela pourrait aider à l'hôpital s'il part en Russie et qu'il récupère les trésors que Napoléon avait disséminés durant son retour. Alors, ça commence à germer dans l'esprit d'Archibald. Il se dit, ben, pourquoi pas? En plus, ça pourrait peut-être la soigner. Sauf que pour Napoléon, la Russie est un pays maudit. Alors, ils partent tous les deux en Russie. Commencent les aventures d'Archibald et Pauline en Russie. Donc, c'est là où c'est vraiment un roman d'aventure. Alors, bien sûr, ils se font dépouiller à la douane. Leur voiture tombe en panne. Puis, de nouveau, dépouillés par des faux policiers. Ils ont plus d'argent, plus de passeport, plus de téléphone. Ils sont coincés à 150 km de la ville la plus proche, sous la pluie, en novembre. Alors, ils n'ont plus qu'une seule mission, c'est de rester en vie, de réussir à rentrer en France. Mmh. Fini, voilà, le parcours initiatique. Là, vraiment, c'est la survie.
Et pendant ce temps-là, Pauline, elle vit comment? Parce qu'elle...
Ah ben, c'est Napoléon, quand même. Hein.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est quand même Napoléon. Et pour éviter de nouveaux pillards, ils décident de quitter les routes russes et de couper par la forêt. Alors, bien sûr, ils se perdent. Ils sont en train, littéralement, de crever de faim. Et tout d'un coup, ils entendent un tambour. Et des soldats de Napoléon arrivent et fêtent Pauline, donc Napoléon, qui pense-t-il est revenu les chercher pour les ramener en France. Waouh, Napoléon nous a pas laissé tomber, nous a pas laissé mourir, il revient nous chercher pour aller en France. Et donc, en fait, voilà, Pauline et Archibald se retrouvent à la tête d'une armée de morts-vivants, de soldats napoléoniens. Et donc, je m'arrête là parce que je vais pas tout raconter. C'est là où ça part complètement en live, en science-fiction, avec de la folie. Mais c'est un roman burlesque, fantaisiste. C'est très drôle, c'est assez cynique. C'est pas cynique, c'est assez drôle, c'est joyeux. Voilà, c'est un roman joyeux, on lit ça assez rapidement. Il y a des illustrations dans ce livre de sa petite fille. Sa petite fille dessinait des illustrations de Napoléon et ça lui a donné envie de. Ça lui a donné des idées pour les chapitres, en fait. Et après, il lui a demandé de dessiner sur certains chapitres. Donc, c'est des dessins noirs et blancs assez drôles, voilà. Mmh. On voit Napoléon sous la neige. C'est sa petite fille qui a dessiné Napoléon sous la neige. Et du coup, il décrit la neige par rapport au dessin de sa petite fille. Il n'arrivait pas à se visualiser comment décrire la scène. Mmh. Et il y arrivait par la suite. Alors, je vais juste vous lire, pour terminer, un passage. Le très matinal général de Gaulle y fait des pompes, des étirements. On court ensemble. Il me parle des ordres de la journée, des plans pour contrer l'ennemi. Méfiez-vous des Chinois, lui dis-je. Vous êtes vraiment nul en histoire, docteur, se lamente-t-il. Ce sont les Allemands qui nous attaquent, les Allemands. Chinois, Allemands ou Iroquois, quelle importance dans un hôpital psychiatrique. Plus tard, après un tour de chauffe, le général m'annonce. J'ai des nouvelles du front, docteur. On vient d'amener un nouveau. C'est un général comme moi, mais il est très jeune, un enfant. Il n'a même pas de moustache, pas une trace de poil. Un deuxième général de Gaulle, fais-je imprudemment tout en courant. Sachez, monsieur, que le général de Gaulle est unique et il est à côté de vous. Voilà, c'est vraiment des phrases courtes, c'est très drôle. Vraiment, je le conseille, un super livre, un super roman. Et il hésite d'ailleurs, sur une interview que j'ai vue, à faire une suite par rapport à la fin du livre que je vous raconterai pas, à faire une suite avec ces personnages, cette Pauline B., dont on taira le nom, qui est...
C'est incroyable, c'est Pauline B.
Et voilà, c'est aux éditions Paul. P-O-L. P-O-L, on dit.
Ouais.
Voilà. Ouais. Le retour de Russie, Yegor Grand. Allez,
ça a l'air chouette aussi.
C'est très chouette, ouais. À lire. On fait une pause avec un autre fou, Elliot Smith, Waltz numéro 2.
Who can really tell? She's just like a dead China doll. Never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Now she's done and they're calling someone. Such a familiar name. I'm so glad that my memory's remote, 'cause I'm doing just fine. How do I know to know? Here it is, the revenge to the tomb. Tell that it's well understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Things wrong. Don't miss a man with impossible plans to just leave me alone in a place where I make no mistakes, in the place where I have what it takes. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you
Allez, on va donner la parole à Pauline B. dit Napoléon. C'est parti.
Ouais, alors bah ouais, moi je vais. On parlait justement là pendant l'intermède du fait qu'on voulait tous avoir un petit grain de folie, qu'on disait ça avait l'air simple. On était un peu plus insouciant quand on avait ce petit grain de folie.
Certains l'ont, hein.
Ouais.
Mais bon. Il en faut un petit peu.
Bah un petit peu, ouais. Mais là, dans mon bouquin, bon, là c'est un peu autre chose. Bah en fait, donc le titre complet, hein, je vais y aller. Lettre morte, correspondance censurée de la nef des fous de l'hôpital de Volterra, de 1900 à 1970.
Volterra jumelée avec Mende.
Et voilà, fameuse, ouais.
Traduit par Monsieur Vanel, certainement.
Peut-être.
C'est pas indiqué.
Mais comme il fait partie de tout ça.
Et qui traduit des livres italiens.
Oui, c'est pour ça que je posais la question.
Non, là c'est... Enfin, je vérifie, mais... Non.
N'importe quoi.
Mais ça aurait pu. En plus, ils se connaissent avec le responsable de la maison d'édition.
Ouais, d'ailleurs, c'est Bernard Vanel qui a écrit Twilight aussi, qui se passe à Volterra. C'est ça, Valérie? Allez, Pauline, vas-y.
Donc, je vais commencer par une petite citation. Faut que je sois sérieuse, parce que vu le thème, c'est pas possible.
Non, mais justement, prends-le avec légèreté, le thème.
C'est la maison d'édition, tu dis?
Maison d'édition Encre et Lumière. Ouais, je pense que faudrait en parler peut-être un peu. Ouais.
Oui, on en parlera.
Nico a peut-être des infos cachées dans sa manche.
Ouais.
Donc le psychiatre italien Franco Basaglia, qui fut un des principaux acteurs de la lutte contre l'existence des hôpitaux psychiatriques en Italie, avait coutume de dire que la première chose qu'on rencontre lorsqu'on pénètre dans un asile, c'est pas la maladie ou la folie, mais la misère. Mm. 1978, le Parlement italien a voté la fermeture des asiles. Donc c'était assez tôt apparemment pour voilà, pour l'époque, c'était une grosse décision. Et donc il a fermé notamment celui de Volterra, donc une petite ville du nord de la Toscane, hein, que on l'a dit, les Lozériens connaissent. Et du coup, bah, suite à ça, ils ont trouvé des milliers de lettres dans les archives. En fait, la loi voulait à l'époque, je pense que c'était le cas un peu partout, hein, que les échanges de lettres entre les internés et l'extérieur soient soumis à une censure à la fois médicale et administrative. Et du coup, bah, des lettres des 4800 personnes qui ont vécu dans cet asile sont restées bah, lettres mortes. Et donc, bon, bah, à l'époque, hein, c'était pas choquant. C'était comme ça qu'on traitait la folie, c'est-à-dire qu'on la cachait, on l'enfermait dans un asile. Et voilà, tout ça, c'était caché. On filtrait tout. Donc, Patrick Faugéras, qui est psychanalyste, je crois, qui est directeur de collection sur ce thème, enfin, voilà, qui travaille beaucoup sur la folie, et aller s'immerger complètement dans les archives de l'asile de Volterra.
Mais qu'on peut visiter encore, tu sais pas ?
Je sais pas. Je sais pas du
Bernard.
Tout.
Non, mais il y avait eu un film qui avait été Bernard. Fait. Ouais, mais ouais. Je crois qu'il y avait eu un film qui avait été fait en parallèle justement à l'occasion de. Arrête avec ça. Avec l'asile de Volterra et l'asile de Rodez où était enfermé Antonin Artaud, et qui avait été présenté justement à Mende dans le cadre des semaines toscanes par rapport au jumelage Mende-Volterra. Et ils avaient filmé justement à l'intérieur de l'asile de Volterra qui venait d'être fermé, puisque c'est assez récent. Et donc ça avait l'air enfin, d'être
78,
un endroit un peu
78.
Oui,
ouais.
C'est pas vieux. Enfin, ouais. C'est ce que
ça
je veux
me
dire.
Rassure sur mon âge, mais
voilà, exactement. Non, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un bâtiment qui est complètement en ruine et qui a été rasé. C'est un bâtiment qui existe
encore.
Et sur les murs, même, il y a encore des lettres sur les murs du bâtiment de Volterra.
Ah, ça doit être voilà. Beau.
Bah, il y a des photos dans le bouquin du bâtiment qui ont été prises en 2006 là par Patrick Faugéras. Enfin, c'est complètement dans son vue. Enfin,
oui,
ça a quasiment pas bougé. Ah ouais, c'est resté en l'état. Mmh. Aujourd'hui encore, je sais pas. Mais
moi, c'est un film que j'avais vu en 2009. Donc, tu vois, tout aussi bien. C'était tourné à l'époque de Faugéras.
Mmh. Ouais. Et du coup, ouais, donc ce Faugéras, là, il a rassemblé toute cette correspondance qui a été interceptée, censurée, détournée, parfois même. Caché à la demande des patients sur certaines lettres, ils disent le patient se retourne et finalement dit alors pour quelle raison, c'est pas bien, mais finalement n'envoyez pas cette lettre. Et donc voilà, il a rassemblé ces lettres qui sont celles des internés, de leur famille, parfois celles des médecins, qui s'adressent un peu à n'importe qui. Hein, ça va passer des proches aux voisins, à des personnalités politiques, des comtes, des comtesses, parfois même au pape. Il y en a voilà, qui écrivent au pape. Hein. Et donc, alors pour le choix, ils disent avoir fait un choix complètement arbitraire. Alors parmi des milliers de lettres, j'aurais aimé quand même voir le choix. Ils ont juste exclu les lettres datant des guerres. Voilà, ça c'est un choix qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé celle des deux grandes guerres. Donc on se retrouve avec. Cette correspondance qui s'étale de 1900, donc à la création de l'asile, à 1970, à peu près, un peu avant la fermeture. Et franchement, ben voilà, c'est une lecture où on ressent des tas d'émotions. On est souvent en colère parce que c'est beaucoup de gens qui souffrent, hein, qui disent « sortez-moi de là, je vais mieux, je vais bien, ma santé est bonne, venez me chercher ».
Des fois, Valérie m'appelle pour me dire ça juste. « Allô, ça va, je vais mieux, allez, salut.
Viens me chercher.
Viens me chercher.
Libère-moi.
Viens me chercher, allez, ciao. »
Donc voilà, c'est des lettres de personnes enfermées. Donc déjà, on ressent un peu cette souffrance. On ressent comment l'humain peut devenir des fois presque inhumain. Mmh. Et là, on se dit, ils avaient une conception de la folie à l'époque, et puis jusque tard, puisqu'on est dans les années 70. Voilà, des traitements durs, des gens qui souffrent. Enfin,
Et t'as un suivi un petit peu des lettres, par exemple, est-ce qu'il y a une personne où on voit plusieurs de ses correspondances
parfois,
dans le temps ?
Alors, on en voit deux ou trois. Ouais. Alors, il y en a, par exemple, quand on en voit deux ou trois, on se dit, là, ça fait deux, trois ans que la famille n'a peut-être pas reçu de nouvelles parce que il dit les mauvaises choses dans ses lettres, entre guillemets, et du coup, ses lettres ne passent pas. Il y en a qui m'ont beaucoup touchée. Alors, j'ai imaginé un petit papy, mais je ne sais pas, ça se trouve, je me trompe complètement, mais qui écrit à sa famille pour leur dire, ben voilà, encore une fois, venez me chercher, ça va. Ou si vous ne pouvez pas venir me chercher, envoyez-moi un peu d'argent pour que je puisse fumer, parce que je n'ai que ça à faire de fumer. Et il réécrit 2 ans après et il redemande la même chose parce que personne ne lui répond. Il y a rien qui se passe, quoi.
Ouais.
Donc voilà, toutes ces lettres, elles sont chargées un peu de folie, mais voilà, il y a des petits grains de folie, mais ou seulement des aspects un peu de la personnalité qui sont exacerbés parce que je pense que quand on est enfermé complètement, voilà, tous les sentiments prennent des proportions énormes. Et du coup, alors elles sont aussi à la des fois gaies, joyeuses. Elles sont parfois bouleversantes, vraiment bouleversantes, parfois violentes, puisqu'ils racontent certains traitements qu'ils ont vécu. Et tu sens, l'impatience des soignants qui des fois pètent les plombs et deviennent violentes. Les traitements violents parce qu'on pensait que peut-être les traitements violents étaient nécessaires. Et puis bon. Quand même, il y en a des rigolotes un peu loufoques. Voilà, il y a par exemple celle de Sa Majesté Lugli Luigi, qui sont assez rigolotes, qui délirent complètement, qui citent des articles de loi loufoques, on ne comprend rien du tout, mais c'est très drôle. Ou celle d'un anonyme, elles ne sont pas signées, qui demande à son ami Orlando de lui réserver absolument tous les théâtres de Milan, parce qu'il va jouer dans toutes les pièces, et ensuite partir faire son tour du monde. Donc voilà. Super. On a quand même des moments où on respire et on rigole. Alors après, est-ce qu'on a raison de rigoler ? Je ne sais pas. Mais c'est assez rigolo quand même. Moi, il y a des moments, ça m'a fait rire. Mais ce qui ressort, c'est voilà, la souffrance. Franchement, la souffrance de l'enfermement. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ces lettres, elles sont pour beaucoup incroyablement bien écrites. C'est... Alors peut-être que le choix a été fait comme ça, parce qu'il y a, enfin, il y en a qui sont très élégantes. Il y en a même une d'un homme qui s'excuse de son écriture et qui écrit d'une façon... Enfin, c'est très agréable à lire, c'est beau, c'est... Et on est vraiment atteint par toutes les émotions. Voilà, donc...
Ça commence en 1902, ces lettres, ça finit en 1976, le 12 décembre, exactement. C'est ce que tu disais, il y a une évolution dans le style d'écriture de ce qu'on raconte entre ce début du siècle et cette
fin. Après, dans les traitements, peu finalement, dans ce qu'il raconte.
Ça évolue pas, les traitements.
Pas beaucoup, on le ressent pas en tout cas.
On le ressent pas,
Et là, la souffrance qui est là tout le temps, et je l'ai dit mille fois, mais c'est... Oui.
Et il n'y a aucun témoignage, par contre, de l'équipe soignante.
Il y a quelques lettres de l'équipe soignante aux familles qui donnent des nouvelles à la place de la personne internée.
Ouais.
Voilà, il y a des petites choses comme ça,
Alors, il y a des photographies, tu disais, justement, de cet asile. Donc, après qu'il est fermé, on voit les photographies, c'est délabré. J'ai vu un dessin. Il y a des photographies, des écritures,
des lettres,
malades. C'est un très beau livre, cette édition.
C'est un objet magnifique.
Ancré lumière. C'est vraiment un objet magnifique. Bon, on voit que ça t'a touché, complètement.
Oui, beaucoup.
Sur cette maison d'édition, Nico.
Alors, sur la maison d'édition Ancré lumière. En fait, c'est une maison d'édition qui est partie d'un postulat. Alors, pourquoi Encre et Lumière ? J'ai juste vous dire le mot de Maximilien Vox, qui parle de la typographie, puisque c'est de la typographie, en fait. Il est temps de ne plus considérer la typographie pour son utilité ni pour ses beautés, mais en tant que discipline de l'esprit, c'est-à-dire pour son universalité. Voilà. Donc, en fait, c'est d'abord un atelier, c'est une association qui s'appelle Encre et Lumière, qui a été créée en 1998. L'atelier de typographie et impression, qui font des livres, etc., se situe dans l'ancienne cave coopérative viticole de Canet-Clairant, dans le Gard.
Ouais, tu connais
Dans le Croustillon.
J'ai eu la chance de rencontrer, il y avait un auteur qui s'appelle Picamiglio, qui était venu à la lorgnette. Et il y avait donc la personne qui est le responsable de la maison d'édition. qui était là et qui justement avait pris 5 minutes pour me raconter un peu sa façon de travailler. Et on sentait qu'il était très attaché justement à tout ce qui était typographie, à la façon d'imprimer. Il peut éditer deux fois le même texte, enfin deux fois le même livre, mais en prenant des encres différentes, des aquarelles différentes. Pour voilà.
Alors en fait, dans cette maison d'édition, c'est Jean-Claude Bernard qui la tient. Donc lui, il est maître, on appelle ça un maître, typographe, imprimeur et fondateur de l'association, bien sûr. Il imprime des livres hors du commun qu'il compose manuellement au plomb sur la tradition de Gutenberg. Donc, vous savez, l'imprime au plomb, c'est on fait les lettres, c'est casse, hein, des petites casses en plomb qui font 3-4 cm de haut avec la lettre, donc qui est en surimpression. Enfin, qui est comme un bas-relief, quoi. Et en fait, on compose toutes les pages comme ça. Donc, ça prend des heures et des heures de composition. Puis après, on fait passer des feuilles dessus qui sont imprimées, etc. Donc, c'est vraiment une maison d'édition particulière qui renoue avec l'imprimerie traditionnelle de Gutenberg. Après, ils ont donc des éditions, une ligne éditoriale donc, qui est axée d'abord sur la publication d'ouvrages liés à la poésie, à la littérature, à l'art brut et à la peinture et aux livres d'artistes. Donc c'est essentiellement là-dessus. C'est vraiment un travail artisanal, un savoir-faire très ancien qu'ils veulent défendre à travers ça.
Ça se voit, en tout cas, ils le réussissent. Ouais.
Mais dans les Cévennes, il y a plusieurs maisons d'édition comme ça qui travaillent. Donc j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, justement, lors d'une exposition dans le cadre de la semaine de la poésie à Marvejols, je ne me souviens plus le nom, une dame qui fait effectivement de l'édition... jusqu'à une vingtaine d'ouvrages, donc c'est quasiment fait à la main, hein. C'est très très beau, et les livres valent extrêmement cher, jusqu'à 2000 euros le livre, avec des peintures ou des illustrations qui sont faites par les artistes, donc ce sont vraiment de vrais chefs-d'œuvre, quoi. Et donc elle vend quelques bouquins par an, mais ça suffit pour la faire vivre, et du coup voilà, c'est des ouvrages assez uniques, et c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on regarde ce bouquin.
Voilà, ils tirent à chaque fois des exemplaires, un peu comme des exemplaires numérotés, uniques.
Tout à fait. Voilà.
Merci Pauline. Oui, tu veux rajouter ?
Vas-y. Non, je conseille. Je m'arrête là parce que c'est touchant. On apprend plein de choses sur, historiquement aussi. Enfin, c'est génial. Voilà.
À conseiller.
Ouais, très bien. Alors, très bien.
Allez, on finit avec toi, Valérie.
Ouais, moi j'étais en train de lire de mon œil gauche les notes de. Les notes de Pauline, je voyais qu'elle parlait de Jean Houry et je me disais super, elle va lire sa dernière phrase et ça fera la transition pour mon livre.
Dernière phrase.
Oui, parce qu'il a écrit le post-scriptum de mon bouquin, en fait. Scriptum. Jean Houry,
Non, non, voilà, c'est après ça.
Jean Houry, il fait partie des gens qui ont inspiré le livre dont je vais vous parler. Alors, j'ai failli hésiter à ne pas en parler parce que je trouvais l'exercice un peu difficile. Quand je suis arrivée en Lozère, on m'a dit voilà, il y a deux choses. Il y a donc la bête du Gévaudan, les gorges du Tarn. Et très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a une troisième chose importante. Non, ça va être tout ce qui est institution et. Et notamment, tu entendras souvent parler du nom de Toscaïès. Et je pense que vous en avez tous entendu parler. Pauline, qui n'en a pas entendu parler, tu entendras parler peut-être des hôpitaux François Toscaïès, qui ont été donnés au nom. Donc, Toscaïès, c'était un psychiatre qui avait dû fuir l'Espagne sous Franco. Et qui Francisco de Toscaïès. Qui donc est arrivé à Saint-Alban un peu par hasard, puisqu'au départ il a été embauché comme il était à Sept-Fonds au camp d'enfermement, et on a été le chercher comme infirmier, mais très vite en fait il s'est avéré être un excellent psychiatre, et avec d'autres personnes dont Jean Houry, ils ont créé la psychothérapie institutionnelle, et c'est une nouvelle façon justement de voir l'internement. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée en Lozère, de parler avec des éducateurs, tout ça, qui...
Je croyais que tu allais dire d'être interné.
J'aurais pu, hein, ça me pangonnait aussi. Hein. Mais qui justement, mettaient tous en avant la méthode Toscaïès, en fait. Et on sentait que c'était vraiment quelque chose d'important.
Et qui a donné beaucoup d'œuvres d'art brut.
Oui, énormément. C'est le livre dont je vais parler, en fait.
Exactement. Et ces œuvres, dont les trois quarts, il faut le savoir, sont au musée de Genève, hein.
Genève et à Lille aussi.
Voilà.
À Lille,
Lausanne.
Voilà. Et donc beaucoup d'or qui étaient en Lozère sont à Lausanne.
Sont à Lausanne, ouais. Mais c'est exactement un petit clin d'œil à tes amis les Suisses, Nicolas.
Merci. Ces enfants et ces Suisses, quoi. Franchement, ils ont tout piqué partout. Quoi.
Ouais, même les meilleurs de la Lausanne.
Même les dents, même les dents des Juifs déportés. Donc ils ont fait des.
C'est pas parce que c'est une mauvaise aventure en Suisse et qu'il te faut.
Oui, mais tu vas trop loin, là.
On va revenir à mon livre.
Loin, mais franchement, ça fout les goûts.
Donc là, dans ce livre, faut savoir qu'il y a eu pas mal de travaux de faits. Donc c'est un honneur de pouvoir vous en parler. C'est un livre qui a été édité donc par Château Saint-Alban et LAM. LAM, c'est le musée d'art contemporain de Lille. Qui va d'abord nous expliquer un petit peu la psychothérapie institutionnelle, qu'est-ce que c'est. Donc, en quelques mots, en quelques mots, de façon très simple, puisque je ne suis absolument pas douée en psychologie ni en psychiatrie, c'est la façon de réinventer l'établissement. Se dire que, effectivement, dans l'intérieur de l'établissement, on a des gens qui sont malades, mais l'institut en lui-même, en tant que lieu, est malade lui aussi.
C'est donc, l'ouverture sur l'extérieur.
Voilà. Et sans forcément vouloir guérir. Alors, qui c'est qui en a parlé? Qui a dit qu'il, par rapport à Napoléon, tu vois, qui voulait amener les malades sur les lieux de leur héros pour qu'ils sachent que ce soit pas eux. Là, on est sur du théorème un peu freudien. Et là, on va revenir sur du Lacan. Et on va être plus sur. Voilà, ok. Vous le voyez comme ça, c'est pas grave. Par contre, vous allez revivre au jour le jour pour devenir quelqu'un d'autre, la personne qu'on souhaiterait que vous soyez.
Mais je suis déjà quelqu'un d'autre.
Oui, mais pour les réacclimater petit à petit, ouais, on va mélanger. Il y a plus de barrière entre le soignant et le patient. Tout le monde va vivre ensemble et petit à petit, on va redonner des responsabilités aux patients. Pour le guérir d'une façon...
De la liberté de créer, d'entreprendre.
Voilà. Et justement, l'art en fait énormément partie. Enfin, là, c'était vraiment les prémices de l'art-thérapie aussi. Et là, ça commence, ces œuvres-là, elles commencent en pleine guerre. Alors, toi, Pauline, dans ton livre, c'était On évite toutes les lettres de la guerre. Et là, ça commence en pleine guerre. Il faut savoir que le château de Saint-Alban, ça a été un haut lieu aussi de la résistance, puisqu'il y a eu Éluard qui est venu. Ils ont caché des juifs. Ça a été une plateforme tournante de la résistance. Donc, ce château, il est à la fois, certes, un haut lieu de la psychiatrie, puis un haut lieu aussi de la résistance. On n'est pas loin du Montmouchet. Il est chargé. Enfin, c'est un lieu qui est hyper chargé. Et dans ce livre, tout ça s'est retranscrit. C'est pas trop lourd à lire parce qu'il y a pas des grandes tirades philosophiques ou psychoanalytiques. Mais on prend bien conscience de ce qu'est le lieu, de qui sont aussi les piliers de ce lieu, de comment en fait toutes les personnes qui y travaillaient se sont investies quand il a mis la psychothérapie institutionnelle en place, Tosquelles avec Coury et compagnie, les soignants sont pris au jeu, c'est-à-dire qu'ils faisaient des groupes de parole et l'infirmière se mettait à animer tous les mardis soirs de 19h à 23h un groupe de parole avec soignants, cuisiniers, patients, enfin... Et tout le monde s'est investi dans son métier et ça a permis d'apporter énormément de... Ça a été une révolution sur le monde de l'aliénisme. Enfin, je ne sais pas si ça existe comme mot. L'aliénation. Voilà. Et on sort complètement du cliché, donc du livre Camisole où on envoie des électrochocs, ou le regard extérieur du fou. Enfin, au contraire, on va accompagner la personne qui est là pour faire ressortir quelque chose de ce qu'elle est. Et là, ils font une espèce de biographie d'énormément de patients qui sont passés par là, donc majoritairement sur la période 39-45. Et c'est fabuleux parce qu'ils parlent de leurs œuvres, ils parlent un petit peu de comment ils sont arrivés là. Et on a presque envie d'en savoir plus. Enfin, moi, j'ai envie, là, je suis sur Mademoiselle Cyr, qui a fait pas mal d'œuvres en couture, notamment, qui a créé sur la fin de sa vie une robe de mariée en fil de laine qui est absolument magnifique, qui est au musée de Lausanne d'ailleurs. Et c'est tout ça. Donc ça mêle le côté résistance, le côté psycho d'un établissement comme ça. C'est fabuleux. Enfin, c'est fabuleux et surtout, ça donne envie d'en savoir plus. Ça donne envie d'en savoir plus sur les soignants, ça donne envie d'en savoir plus sur les patients. C'était audacieux de lancer ça comme livre.
Ça tombe bien. C'est génial. Ça tombe bien parce que mon dernier livre à présenter, c'est sur le passage de Paul Éluard à... Mais j'ai plus le temps, c'est dommage.
À Saint-Alban, ouais.
C'est quelle maison d'édition?
J'en ai aucune idée. Non, c'est le LAM, hein, le musée d'art contemporain de Lille, hein, qui l'a édité.
D'accord.
Par contre, c'est pas très bien mis en page. Hein, c'est...
Alors, je vais, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Il y a des fautes aussi dedans. Il y a des fautes de. Il y a des fautes de. Non, mais ça, c'est un extrait dans l'extrait. Là, c'est un journal qu'ils ont mis dans le livre. Il y a deux, trois fautes de Lela, des choses comme ça. Mm. Mais honnêtement, le texte est tellement bon et les choses, c'est hyper bien documenté. Et surtout, ça ouvre sur. Soit on peut se contenter du livre tel qu'il est. Mais ça donne envie d'en savoir mille fois plus, quoi. C'est sur Jean Houry, par exemple, de savoir comment il a créé son la Borde, qui a été un grand centre de psychiatrique aussi. Faut savoir que c'est Jean Houry dont parlait Pauline, qui fait partie aussi de mon livre. Un jour, il a son établissement, il y a justement une espèce de comptable économe qui est venu, qui a dit il faut fermer le lieu. Il a pris ses patients avec lui, ils se sont barrés et ils ont investi un château abandonné pour recréer un endroit. Qui est devenu après un grand centre institutionnel. Enfin, ça donne envie d'en savoir.
Si vous allez
plus.
À l'hôpital de Saint-Amand, il y a une bibliothèque dans cet hôpital qui est riche de plusieurs milliers d'ouvrages, et notamment le journal qu'ils avaient en interne, qui s'appelle Trait d'Union, et qu'on peut compulser et qu'on peut regarder. Et voilà, qui est quand même une.
Ah, ben c'est une mine, hein.
C'est une mine d'or.
Ils étaient précurseurs, parce que Trait d'Union, c'est un journal qui était fait et par les soignants et par les patients. Qui était vraiment le trait d'union entre tout ce qui pouvait se passer.
C'est
top.
Drôle parce que sur ce bulletin, en fait, il y avait marqué ce bulletin ne doit pas sortir de l'hôpital.
Mmh. Oui, parce qu'ils voulaient les échanger avec d'autres bulletins qui étaient faits dans d'autres HP, enfin, hôpitaux, asiles ou autres. Et en fait, ils se disaient non, il faut quand même, pour qu'on puisse garder cette richesse de pas.
Ouais, puis il y avait beaucoup d'expérimentations. Il y a un atelier de théâtre, il y avait une harmonie. Il y avait
mais c'était extraordinaire,
c'était
tout ce qui a été fait par Toscaïès.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça finalement?
Mais il y a une aile qui a été fermée. Pour en discuter avec des soignants, je pense que l'esprit de respect justement du patient ou autre est bien resté. Après, moi, j'y suis pas au quotidien et
ça devient difficile. Disons qu'actuellement, on s'éloigne de plus en plus de ce type de prise en charge pour revenir vers des hôpitaux fermés, pas ouverts vers l'extérieur. Après, bon, ça, c'est la politique
nationale. Ouais, mais
regarde,
il se fait beaucoup de choses. Enfin, là, j'ai vu qu'au mois de juin, sur les rencontres de théâtre amateur de Trois Bazars, il faisait venir des conteurs justement d'un hôpital. Enfin, qui vont. Enfin, je trouve que sur l'art, il se passe quand même des choses. La profession d'art thérapeute est reconnue. Enfin, je trouve qu'il y a des.
Oui, mais sur la prise en charge du patient, on a un peu tendance à reculer dernièrement en France. Tu peux en parler avec justement ceux qui travaillent actuellement à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban et qui voient les changements qui ne sont pas toujours positifs. Mais ça, c'est des questions d'orientation politique, c'est compliqué.
Oui, puis on ne peut pas le résumer juste à un bouquin.
Mais je pense qu'il faut quand même se dire qu'il y a une évolution entre l'hôpital tel que décrit par le premier livre de Pauline, qui était Camisole, où on enfermait vraiment les personnes. Là, il y a eu des enfermements. Il y a un des artistes, d'ailleurs, qui a été enfermé et qui, sur le lambris de sa chambre, a créé des œuvres fantastiques. Il était enfermé malgré tout, mais il y a eu des évolutions qui ont été faites dans ce milieu et l'évolution est partie de personnes, certes, qui étaient en Lozère, ils auraient pu être.
L'enfermement, il y a aussi la dangerosité des personnes
aussi.
Qui sont
il y a une évolution dans les transports aussi, tu sais.
Oui, mais ça, je suis d'accord.
À l'époque, on était sur une charrette. Il y a eu
un moment où c'est que les personnes qui étaient enfermées, ils voulaient juste les faire disparaître.
Pas trop en parler aujourd'hui. Allez, ok, merci Valérie.
Oui, ça a l'air très intéressant.
L'invention du lieu, dire que tu nous as même pas donné le
titre. Si, je voulais donner l'invention du lieu.
Absolument
non.
Pas.
Résistance du lame.
Résistance et création, un Gévaudan.
Voilà, et le lame qui vient, j'allais dire souvent, mais qui vient parfois à Saint-Alban redonner des œuvres d'art brut pour des expositions.
C'est ça. Ouais.
J'avais croisé la directrice il y a quelques années qui faisait une exposition spéciale à Saint-Alban. Voilà.
Il faut rappeler donc que tous ces bouquins, on peut les trouver donc à Librairie La Lorgnette, notre partenaire, mais aussi, si vous souhaitez, donc à la Bibliothèque Municipale de Mende, où il suffit de demander à obtenir ce livre, et puis les commandes peuvent être faites. Donc voilà.
Voilà, et pour le thème dans deux semaines, donc on sera en juin, on laisse nos auditeurs décider, mais par contre, il faut décider assez vite.
Oui, il faut décider d'ici ce soir.
Voilà, parce qu'après, on a beaucoup de livres à lire, c'est un peu compliqué. Donc, je vais mettre le podcast cet après-midi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous commentez le site de l'émission pour nous dire, j'aimerais bien lire.
Alors, entre-temps, j'ai fait une petite recherche juste pour te couper sur Volterra. On ne trouve pas, pour l'instant, sur le site de la ville Visiter Volterra, de visites possibles, donc de l'asile.
Ah, je comptais y aller demain, mince.
C'est dommage.
Par contre, visiter Volterra, ça vaut vraiment le coup parce qu'autour, il y a Sienne, il y a énormément de grandes villes. Voilà,
il y a
c'est
des
quand
tournages
même super
de
beau.
Films. Tu peux...
Et le site est magnifique.
Mais oui.
Voilà. Et puis, c'est la capitale de l'Albâtre. Ah, pas trop l'Albâtre.
L'Albâtre, la
c'est-à-dire la pierre, le marbre là qui sert de base de sculpture. Ou de,
d'accord.
Tu vois
l'Albâtre, quoi.
L'Albâtre, quoi. Ouais.
Hein, on ne faisait pas des dents en Albâtre avant. Tu peux couper, je pense, l'émission.
Dans le débat. Non. Pour ceux qui ne savent pas où aller cet été, bah, pouvez-tu aller à Volterra.
Excusez-moi, Valérie veut parler. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
FM.